Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes en direct et jusqu'à 14h avec au sommaire de l'émission, comme tous les dimanches, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann et puis le gouvernement face au mouvement social. Manifestation, grève cette semaine et des réformes présentées à chaque fois comme nécessaires, indispensables. C'est toujours le même argument, comme s'il n'y avait pas d'alternative possible. Pas d'alternative, on en débat dans une quinzaine de minutes avec la directrice de la fondation IFRAP, le think tank libéral, Agnès Verdier-Molinier. Elle viendra nous rejoindre vers 13h30.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Content de vous retrouver, on va démarrer l'émission avec un droit de suite. La semaine dernière, vous débattiez tous les deux du Rwanda. Le journal Le Monde avait publié des documents qui mettaient en cause une nouvelle fois la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Et dans votre échange avec Raphaël, Natacha, vous disiez, je cite, « Malheureusement, on est typiquement dans le genre de cas où on avait, j'allais dire, des salauds face à d'autres salauds. » Des salauds face à d'autres salauds, c'est une expression qui a choqué, qui a indigné, et il était important d'y revenir aujourd'hui pour que les choses soient très claires. Et je vais lire l'un des nombreux messages que nous avons reçus et qui vous est adressé. Celui d'une femme qui nous écrit et qui nous dit « Ma grand-mère, mes tantes, mes oncles et cousins tués en 1994 au Rwanda n'étaient pas des salauds. Vos propos sur France Inter ce dimanche dernier m'ont choqué et attristé. Qu'une intellectuelle s'abaisse jusqu'au caniveau du négationnisme m'a posé des questions sur sa place sur un média comme France Inter. Peut-être manquez-vous d'informations ? Alors je dirais que c'est un bel exemple de paresse intellectuelle car de nombreux ouvrages ont été publiés sur le génocide des Tutsis au Rwanda. » Non, il n'y a pas de salauds dans ma famille, mais des personnes tuées parce qu'elles étaient Tutsis. Dans quelques jours, le 7 avril, la communauté rwandaise de France va commémorer cette tragédie. Je vous invite à présenter des excuses publiques et à honorer la mémoire de toutes ces victimes qui ont péri à cause d'un racisme que vous semblez reprendre à votre compte. Voilà le message. Natacha, c'était important de vous entendre. Et vous avez les larmes aux yeux, je le dis.
Oui, parce que ce message me bouleverse, parce que... Bien entendu, pas une seconde, je n'ai prétendu que les victimes du génocide étaient des salauds. Et je suis profondément attristée que qui que ce soit ait pu le croire et ait pu en souffrir. Donc je vais préciser ma pensée, j'aurais dû le faire tout de suite. Nous sommes passés à un autre sujet et on ne peut pas passer à un autre sujet quand on débat de ce genre de choses. Donc je vais expliquer ce que j'ai dit. Il y a eu un génocide, je l'ai dit plusieurs fois la semaine dernière et je le répète, il y a eu un génocide absolument monstrueux, un des grands génocides du XXe siècle. 800 000 personnes sont mortes en 100 jours, ce qui est effarant. Et la famille de cette dame en fait partie et c'est pour ça que je veux m'expliquer vis-à-vis d'elle. Donc il y a bien des victimes et des bourreaux dans un génocide, nous sommes bien d'accord, et je n'ai jamais prétendu le contraire. Et je pense qu'il faut expliquer comment cette logique génocidaire s'est mise en place, à travers la propagande de la radio d'Émile Colline, à travers le travail du Hutu Power, bien sûr. Je parlais d'autre chose. Et je citais, et j'aurais dû le préciser, une phrase qui est de Ronnie Broman, que nous recevions il y a deux semaines, et qui écrivait à propos du Rwanda. De tout temps, les conteurs comme leur public ont préféré les histoires où les bons combattent les méchants plutôt que celles où des salauds en affrontent d'autres. Ce qui est aussi une phrase qui a été dite par Carla Del Ponte, ancien procureur du Tribunal pénal international sur le Rwanda, et qui ne désigne absolument pas les victimes, mais qui parle du rôle du FPR face au régime de Juvenal Habyarimana et face ensuite au Hutu Power. Le FPR, et c'est Médecins Sans Frontières qui l'a dit et qui l'a expliqué parce qu'ils étaient sur place, a commis des crimes de masse entre 1990 et 1994, en a commis d'autres après. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec un génocide et ça n'est pas à mettre sur le même plan. Il y a une différence entre une logique génocidaire et des massacres de masse, des crimes de guerre.
D'autant que c'est Paul Kagame et le FPR qui ont mis fin au génocide.
Ils ont mis fin au génocide. Ce que je voulais dire pour autant, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont mis fin au génocide que Paul Kagame et ses troupes sont des saints et qu'ils sont des gens bien. Voilà ce que j'ai voulu dire. Je suis profondément attristée que ça ait pu être mal interprété. Je précise d'ailleurs que le rôle de la France là-dedans doit être explicité jusqu'au bout. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut ouvrir les archives dans leur totalité. Voilà. Mais je précise ma pensée et bien entendu, j'ai une pensée profonde pour toutes les victimes et pour les familles des victimes qui, en effet, ont pu être blessées par ce que j'ai dit.
C'était important de vous entendre, Natacha. Pour ma part, c'est vrai que je ne me suis pas intervenu la semaine dernière, mais qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir personnel. C'était celui d'un voyage au Rwanda à l'occasion de la commémoration du 15e anniversaire du génocide. Et c'est un moment qui a marqué ma vie, qui a changé ma vision du monde, comme pour vous, Raphaël, à l'occasion d'un autre voyage. Et nous avons eu l'occasion d'en parler pour en finir avec toute ambiguïté. Il suffit de penser à 1942 et de remplacer Tutsi par juif. Mais pour comprendre ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda.
J'entends complètement l'émotion de Natacha Polony et le fait qu'elle n'est pas négationniste. C'était ça qu'il fallait dire. Oui, ça a changé mon existence. Vous savez, ça fait 20 ans que je suis bouleversé par cette histoire et j'ai travaillé dessus pendant de longues années. Et il y a un problème en France dans la manière dont on évoque et la guerre et le génocide. Vous avez fait l'effort intellectuel de dire remplacer le mot Tutsi par juif. J'aimerais que les commentateurs et les gens qui parlent du génocide au Rwanda fassent cet effort, qu'ils fassent autant attention à leurs mots quand il s'agit du génocide des Tutsis que quand il s'agit de la Shoah. Et enfin, et c'est mon désaccord, et alors là c'est un désaccord, et notamment avec Ronnie Broman, puisqu'il était question de lui, le FPR était et quand bien même c'est un régime non démocratique, le Front Patriotique Rwandais était la seule force qui s'opposait sur le terrain au génocide. Et par conséquent, c'est l'équivalent, et vous savez, les soviétiques, quand ils libèrent Berlin, ou les alliés, quand ils bombardent Tokyo, font des crimes. Et en même temps, ils ne viendraient à l'idée de personne de dire que la Deuxième Guerre mondiale est une affaire d'égalité dans le crime. Et donc, c'est pas ce que vous avez dit aujourd'hui, mais c'est ce qu'on entend souvent. Et moi, ce qui m'importe, c'est de toujours comprendre qu'on parle d'un génocide, d'une extermination, et qu'il n'y en a eu que trois, en fait, au XXe siècle, selon l'ONU. Et que donc, on doit avoir la même religiosité, la même sacralité quand on aborde ce sujet, quand on aborde la Shoah, et c'est un appel, une requête, une supplication à l'ensemble des médias, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est vraiment extrêmement important, non seulement pour les rescapés, mais d'autant plus pour les médias français, parce que la France a cette histoire au Rwanda, et que donc on doit faire encore plus attention à ce qu'on dit.
Natacha.
Juste pour préciser qu'en effet, on ne peut pas, et je l'ai dit tout à l'heure, mettre sur le même plan un génocide et des massacres, même de masse, parce que la logique n'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Ronnie Broman dans le texte que j'ai cité et qu'on peut lire encore, qu'on peut trouver, il était publié dans Marianne. Et je pense que il ne faut pas les mettre sur le même plan, mais il faut en revanche regarder l'histoire pour continuer à penser ce qui se passe dans ce pays, à penser ce qui se passe aujourd'hui. Et ça n'empêche pas de regarder la spécificité d'un génocide.
Merci à tous les deux. Et c'était important également donc d'y revenir avec tous les deux. On va passer maintenant à l'actualité de la semaine.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Et une actualité évidemment sombre et marquée par cette attaque terroriste à Trèbes, 4 morts sous le feu d'un djihadiste, Radouane Lakhdim, et parmi eux le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Émotion nationale, le chagrin du peuple français et l'admiration pour le héros, Raphaël.
Ouais, vous savez, cette devise, c'était « Il n'est de richesse que d'hommes », et le lieutenant-colonel Beltrame est un véritable héros. Alors on répète souvent qu'on vit une époque sans héros, que les héros ont disparu. C'est faux, il faut juste savoir les voir, les honorer. Et ce sacrifice, moi, il me bouleverse. C'est-à-dire que l'idée de sacrifier sa vie, d'échanger sa vie pour une vie qu'on ne connaît pas, c'est à mon avis l'acte ultime de l'héroïsme humain. On peut pas faire plus comme geste, et c'est ce type de geste qui fonde une république. C'est ce type de geste qui fonde, quand on l'honore, l'idée d'un peuple. C'est cette lumière qui, là je vais citer Victor Hugo, qui électrise les peuples, celle projetée par l'homme qui étonne la catastrophe et élève son sacrifice au rang d'héroïsme. Et c'est quelque chose dont on n'a plus l'habitude. On vit dans une civilisation de second degré, de rabaissement, de persiflage. Et là, tout d'un coup, on est face à un acte et un geste qui nous ébranle tous. Enfin, je pense qu'on est dans une forme de sidération face à un tel courage.
D'admiration, Natacha.
Oui, je pense qu'il est très important de considérer que l'héroïsme continue à être une dimension essentielle de la vie en commun, de l'humanité commune. C'est-à-dire que sans doute, depuis quelques années, pour combattre un bellicisme qu'on peut trouver dans toute l'histoire de l'humanité, on a dévalorisé ce qu'il y avait d'essentiel dans l'héroïsme et surtout sa valeur de modèle. En confondant l'héroïsme avec ce qui pourrait relever d'un caractère belliciste, en ne lisant les valeurs, par exemple, les valeurs chevaleresques, que d'un point de vue belliciste. Or, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous rappelle une chose, qui est que il ne faut jamais confondre tuer pour des idées et mourir pour des idées. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est mourir pour une certaine idée de l'humanité, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à se sacrifier, à sacrifier sa propre vie, qui pourtant que notre instinct devrait nous obliger à défendre, sacrifier sa propre vie au nom, en effet, d'un être humain inconnu, c'est-à-dire au nom d'une certaine idée de l'homme, au nom de notre humanité commune. Et c'est pourquoi, on s'est trompé en voulant combattre l'idée de tuer pour des idées, en résumant cela à mourir pour des idées. Ça n'est pas la même chose. La grandeur humaine, c'est d'accepter de donner sa vie pour quelque chose qui la dépasse. Et je pense que c'est un modèle à donner, parce qu'à force de ne plus donner de modèle à notre jeunesse, de modèle identificatoire, eh bien, on la laisse trop souvent désemparée et pouvant, aller se chercher des modèles ailleurs.
Raphaël ?
Non, je suis d'accord. C'est un modèle, vous savez, c'est ce qui définit l'humanité. Pour revenir à Homère, c'est la capacité à se mettre à la place de celui qu'on ne connaît pas, ce qu'on appelle l'empathie, mais l'empathie au sens fort, pas la charité. C'est la capacité à prendre la place de l'autre. Et là, c'est ce que fait Achille face à Priam dans l'Iliade, quand il se reconnaît dans la figure du vieux roi troyen qui lui fait face, alors même que c'est son ennemi. Et là, on a ce geste-là poussé à bout. C'est la définition même de l'héroïsme, celui qui dépasse sa propre individualité, l'horizon de soi-même, pour s'inscrire dans quelque chose d'au-delà de soi. Et cet au-delà de soi, c'est l'humain. C'est la capacité à se sentir à la place de cette femme dont il prend la place, oui. Physiquement.
Natacha.
J'avais eu un débat il y a quelque temps autour de cette différence entre héros et victime, notamment avec Rokhaya Diallo, qui m'expliquait que il ne pouvait plus y avoir, enfin que les héros d'aujourd'hui étaient les victimes. Et je lui disais que je n'étais pas d'accord avec cette idée-là, parce que la victime est respectable quoi qu'il arrive et doit être défendue, puisqu'elle est justement l'image de la faiblesse de celui qui subit, mais que pour autant ça ne saurait se confondre avec l'héroïsme qui est justement dans l'action et qui doit être donné en modèle. On ne peut pas donner en modèle des victimes, il faut les honorer et apprendre à les protéger, à les aider. En revanche, on peut donner en modèle des héros.
Et le président de la République annonçait donc qu'un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel Beltrame. On n'en connaît pas encore la date, mais ça devrait arriver dans ces jours qui viennent. Et puis cette semaine, il y avait aussi ce séisme politique avec la mise en examen de Nicolas Sarkozy, l'ancien président soupçonné par la justice d'avoir bénéficié de fonds libyens pour le financement de sa campagne électorale de 2007. Et jeudi soir, sur le plateau du JT de TF1, Nicolas Sarkozy sortait de son silence.
Si jamais on m'avait dit qu'un jour j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi, mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. La bande Kadhafi, qui est une bande d'assassins, m'agonise d'injures et de calomnies. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Ces gens-là, qui sont des assassins, des criminels, des délinquants, cet escroc, cet individu qui est un malfaiteur, a menti.
Comment avez-vous reçu la défense de Nicolas Sarkozy à la télévision, Natacha ?
Disons que c'est un jeu tout à fait compréhensible.
Un jeu ?
Un jeu dans le sens de jeu d'acteur. Vous voyez à quel point Nicolas Sarkozy insiste sur les délinquants, les criminels, etc. Ce qui semble presque excessif. Alors évidemment, votre montage ajoute au caractère excessif. Simplement, ce qui est très gênant dans cette scène, profondément gênant, c'est que nous, citoyens, qui n'avons aucun moyen de connaître le fond du dossier et d'avoir des preuves, nous n'en avons pas, nous sommes convoqués pour nous faire une opinion que nous ne pouvons pas nous faire puisque nous attendons de savoir ce qu'il y a dans le dossier d'instruction. Il y a pour l'instant des témoignages, et des témoignages suffisants pour qu'on éprouve le besoin de mettre en examen Nicolas Sarkozy, mais des témoignages ne suffisent pas. Il faut des preuves et nous attendons que la justice fasse son devoir. Mais nous convoquer, nous, en tant que citoyens, et nous sommer d'avoir un avis sur le fond de ce dossier me semble problématique, enfin, me semble profondément malsain. Et c'est pour ça que la séquence de Nicolas Sarkozy venant s'adresser aux Français et non pas aux juges pose un problème.
Raphaël Glucksmann.
Non, nous ne savons pas ce qu'il y a dans le dossier. Nous ne sommes pas dans le secret ni des dieux ni des juges. Mais ce que nous pouvons voir déjà, c'est à quel point le système est problématique. C'est-à-dire comment des dirigeants français, et c'est pas Sarkozy qui a inventé ça, hein, c'est une tradition de la Ve République, comment des dirigeants français peuvent laisser des gens comme Taqiédine ou Djouri pénétrer aussi facilement dans notre scène politique, dans les rouages de l'État, comment ils peuvent s'associer avec des gens pareils, comment des ministres comme Hortefeux peuvent se prendre en photo avec eux sur leur devant leur yacht, comment finalement des gens qui sont des voyous, des malfrats ont réussi comme ça à s'intégrer dans l'espace politique français. C'est pas inventé par Sarkozy, hein, c'est une tradition qui remonte à plus loin. On a une figure mythique du gaullisme de De Gaulle aujourd'hui. Enfin, déjà à l'époque de De Gaulle, il y avait cette interpénétration vis-à-vis des dictatures africaines entre des intermédiaires véreux et des grands ministres et des grands serviteurs de l'État français. Et donc là ça ressort parce que finalement dans son système de défense il y a un problème quand même si on ne connaît pas le secret de
et qu'il est présumé innocent.
Et qu'il est présumé innocent, c'est que comment c'est possible de justifier que ces plus proches aides, et d'ailleurs il a tendance à les lâcher, ces plus proches aides soient à ce point liées avec des véreux, quoi.
Natacha. À ceci près, Raphaël, que certes, la Ve République n'a jamais été totalement reluisante, comme aucun grand État ne l'est, dans la mesure où il y a, à travers le secret d'État, des choses qui ne sont jamais très très belles à regarder. Pour autant, ça n'avait jamais atteint ce point. Et c'est toute la différence. C'est qu'un personnage comme Alexandre Djouri, il en a existé d'autres, mais ils n'étaient pas reçus comme des amis.
Enfin, il n'était pas de cache de Chirac et tout ça.
Non mais
connu,
d'accord, mais je veux dire, il y a une spécificité dans ce système-là, en effet, qui n'est pas exactement comparable avec ce qui a pu se faire avant, dans la mesure où l'interpénétration est beaucoup plus forte et relève de liens qui sont, je le dis, amicaux. Et c'est là où quel que soit le fond du dossier, en effet, nous pouvons nous faire un jugement. Sur ce point-là précis, oui.
Ouais, et puis c'est quand même terrible de voir ces gens qui prônent la tolérance zéro et expliquer qu'il faut absolument rétablir des valeurs dans notre pays, par ailleurs faire des pauses dans des piscines de mafieux, quoi. Enfin, genre, il y a un moment où là, il y a un problème de crédibilité de la parole politique quand elle se mêle à des intermédiaires véreux à ce point et effectivement construisant des relations d'amitié, de proximité, de quasi-fraternité avec ce type de personnage.
On va en rester là sur ce dossier précis. Il est 13h35 sur France Inter. Le grand face-à-face continue avec le débat.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Le gouvernement face au mouvement social, des manifestations, des grèves cette semaine, des réformes présentées comme nécessaires, indispensables par le pouvoir, c'est à chaque fois le même argument, comme s'il n'y avait pas d'alternative possible. Pas d'alternative, on va en débattre justement avec notre invitée. Elle dirige un think tank libéral, la fondation IFRAP, fondation pour l'administration des politiques publiques. Je vais y arriver, Agnès Verdier-Molinier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous avez beaucoup réfléchi à la question de la réforme, à la question de la réduction des dépenses publiques. TINA, c'est cet acronyme pour dire « There is no alternative ». C'est une phrase qu'on attribue à Margaret Thatcher pour présenter les réformes, la dérégulation, la libéralisation d'un certain nombre de secteurs publics comme absolument inéluctables. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la France est en train de subir une sorte de traitement de choc libéral ?
Non, je dirais pas ça.
Non ?
Non, parce que je crois que si on fait le tour d'Europe, on se rend compte que tous les pays qui nous entourent ont réformé, notamment le statut de la fonction publique, notamment leurs services de transport public, notamment aussi leur fiscalité. Ils ont réfléchi en permanence à avoir une fiscalité qui permette la création de valeurs, la création de nouvelles entreprises et donc la création de nouveaux emplois.
Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on emploie le mot réforme, derrière, on voit, écoutez, moins de protection pour les salariés, moins de protection, plus de libéralisation, plus de flexibilité, c'est devenu quasiment un synonyme ?
Non, mais parce qu'en fait, on se trompe. On imagine que la réforme va amoindrir le service public, alors qu'en réalité, la réforme peut permettre une meilleure qualité de service public, un meilleur aussi environnement pour les agents, parce que le système de la France, avec notre empilement des communes, les intercommunalités, les départements, les régions, l'État déconcentré, l'État, on a rajouté aussi les métropoles. À un moment, on a une responsabilité totalement diffuse sur les services publics et on a une incapacité aussi pour les agents eux-mêmes de se retrouver dans le sens de leur mission. Donc réformer, ça ne veut pas dire aller pour moins bien, ça veut dire aller pour mieux. Quand on parle de la SNCF, là, c'est l'actualité.
Oui.
C'était l'actualité cette semaine, ça va l'être pendant,
ça le restera
de, nombreuses pendant semaines, de nombreuses semaines, avec 36 jours de grève perlée potentiellement. On a vu que, bon, ça a été suivi, bon, 35% de grévistes, mais que 47 000 dans les manifestations, finalement, c'est pas gigantesque. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas une majorité de cheminots qui ont compris qu'il faut faire évoluer leur entreprise, parce que sinon, elle va perdre des parts de marché et que c'est eux-mêmes qui vont être aussi les victimes derrière, finalement, de la non-réforme.
Agnès
donc la réforme, c'est aussi pour le meilleur.
Natacha Polony.
Juste une chose, on peut entendre une partie de votre discours. En effet, l'empilement, le millefeuille territorial fait qu'on a augmenté de 1 million le nombre de fonctionnaires de la fonction publique territoriale en 15 ans, ce qui n'était peut-être pas totalement nécessaire, nous sommes d'accord. Pour autant, ce qui me frappe dans votre façon de présenter les choses, c'est d'abord que vous nous dites, les agents ont compris, enfin les agents ont surtout compris qu'il y avait quelque chose d'inéluctable qui leur était imposé quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que c'est la logique globale du système. Or, c'est cette logique globale du système qui mérite d'être remise en cause, ou en tout cas d'être pensée. C'est-à-dire que vous nous dites tous les pays d'Europe le font. Mais depuis quand et pourquoi ? C'est-à-dire qu'il faut réinclure ça dans un grand mouvement qui est celui qui commence à la fin des années 1970, qui est celui de dérégulation, de libre circulation des capitaux, qui implique ensuite mécaniquement la libre circulation des marchandises et des hommes. Ça entre, il faut y faire entrer aussi l'acte unique européen qui entérine ça et qui transforme un marché qui était un marché commun, mais un marché protégé, en un marché ouvert à tous les vents, qui met en concurrence avec des pays qui n'ont absolument pas les mêmes protections sociales, les mêmes services publics. Et donc, si vous ouvrez tout, vous mettez mécaniquement en péril ce qui faisait la structure de notre système. Alors, comme vous refusez d'interroger cette logique, vous nous dites, il faut absolument parce que les autres le font. D'accord, mais pourquoi ? Pourquoi a-t-on accepté tout cela ?
Regardons l'Allemagne, regardons les Pays-Bas, regardons la Suisse. Ce sont des pays qui ont les mêmes contraintes que nous par rapport, évidemment, à un marché qui est ouvert, à une concurrence qui est ouverte. Il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'un protectionnisme gigantesque dans ces pays. Ils font partie souvent, comme nous, de la zone euro ou de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas de la Suisse.
Ce n'est pas le cas de la Suisse, mais
voilà. Mais quand vous regardez ces pays, ils sont à 4, 5, 6% de chômage.
Avec un taux de pauvreté. Le taux de travailleurs pauvres est le plus fort en Allemagne, de tous les pays de l'Union européenne.
Ils ont un PIB par habitant qui nous a dépassés et qui évolue d'une manière meilleure que la nôtre. Ils ont été meilleurs ces dernières années sur la croissance.
Les inégalités sont les plus fortes chez eux.
Et ils ont...
Ils l'ont fait au prix d'une égalité croissante.
Natacha, vous le savez très bien, c'est qu'à un moment, on est dans un système, un modèle social français, un modèle global français. Ce n'est pas que social, c'est aussi fiscal. Mais c'est aussi, par exemple, sur les questions régaliennes qui sont au cœur du sujet aujourd'hui, avec un lieutenant-colonel quand même qui a donné sa vie face à des terroristes, face à un terroriste, et qui finalement montre aussi qu'on a un sujet de sécurité intérieure et comme de sécurité extérieure aussi. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années ? On a baissé le niveau des dépenses, on a baissé le niveau
des
dépenses
de
sécurité. Je l'explique dans mon livre où je fais tout un chapitre sur l'idée de recentrer l'État sur ses missions essentielles. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait, de manière très 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 exponentielle, augmenter la dépense sociale. On est arrivé à 34 points de PIB de dépense sociale. Donc comment on obtient ces inégalités moins importantes ?
On l'obtient avec quoi ?
On l'obtient avec quoi ? On l'obtient non pas avec de la création d'emplois, etc. Parce qu'il faut quand même qu'on rappelle aussi aux auditeurs qu'on a énormément de chômage, plus de chômage qu'ailleurs, de l'ordre de 9,5. Et c'est quand vous additionnez la totalité de toutes les catégories de Pôle emploi, on est au-delà de 5 millions de personnes
c'est
qui
très
n'ont
bien,
pas
mais
d'emploi.
Vous restez dans la logique mais de mise en concurrence de tous les pays entre eux.
J'explique que le sujet des inégalités, le sujet numéro 1, c'est le chômage. Donc, on peut toujours redistribuer l'argent du social, mais ça ne remplace jamais un emploi.
L'Allemagne est le pays... Les aides sociales ne remplacent jamais un emploi.
Raphaël Glusman.
Vous passez de la question des services publics à celle du chômage. Et la vérité, c'est que dans votre discours, il y a la perte de la notion, hormis sur les questions régaliennes, de ce qu'est un service public, c'est-à-dire sa spécificité. La volonté de passer en contrat d'ordre privé l'ensemble des services publics, sauf sur les questions régaliennes, c'est votre thèse, eh bien, c'est la négation de la spécificité du public. Or, la France n'a peut-être pas un modèle qui a aujourd'hui essaimé dans l'ensemble du monde, mais il y a cet attachement à la question du service public et qui ne se limite pas à la police ou à l'armée, qui concerne les transports, qui concerne l'aide sociale, qui concerne l'école.
Et par ailleurs,
il y a en plus, dans les pays que vous avez évoqués, comme en Allemagne par exemple, un mouvement de retour sur le phénomène des privatisations des services publics. Par exemple, sur la distribution de l'eau et sur la distribution de l'énergie, à Hambourg, il y a eu un référendum où on a décidé de collectiviser, pas nationaliser, mais collectiviser, rendre public à nouveau la distribution. Et le problème qui se pose, c'est que depuis... moi, je veux bien qu'on ait un débat philosophique, parce qu'il y a une philosophie derrière ces réformes. C'est le problème dans Horizon Alternatif qu'on peut compléter par une autre phrase de Margaret Thatcher qui dit « L'économie fournit la méthode, l'objectif consiste à transformer le cœur et l'âme. » C'est qu'on nous présente ça comme du pur réalisme. Or, en réalité... Comme l'indique cette phrase de Margaret Thatcher, il y a un projet idéologique.
Bon, donc,
Agnès Verdier-Molinier.
Le sujet des services publics, c'est un sujet qui nous appartient tous. C'est notre bien commun. On le met en commun avec de l'impôt, des cotisations sociales. Et chaque Français peut être en mesure, normalement, d'évaluer l'accessibilité de ces services en fonction du coût qui est mis en face. Le problème des services publics français... c'est qu'ils sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Prenez tous les rapports au CDE, prenez les classements internationaux. Notre système de santé n'est pas forcément meilleur que dans les autres pays. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai par rapport aux autres pays d'Europe, quand vous voyez que les classements internationaux...
Mais vous diriez qu'il manque de moyens, par exemple, face à des situations de pénurie ou de tension à l'hôpital public, notamment dans les urgences.
Il y a un problème de gestion, de répartition. Qu'ont fait les pays du nord de l'Europe, les pays scandinaves, notamment la Suède, quand ils ont pensé la réforme ? Ils se sont mis dans la logique de dire, ben voilà, si la gestion publique a atteint ses limites, on essaie autre chose, on expérimente, on est pragmatique. Et là, par exemple, l'hôpital de Stockholm, aujourd'hui, il est géré par une chaîne de cliniques. Et il est plus équilibré, et ça marche très bien, etc. Quand on pense aujourd'hui, en France, aux services publics, on pense bien sûr aux hôpitaux publics, mais on pense aussi aux cliniques qui ont une mission de service public et qui réalisent les mêmes actes pour, c'est la Cour des comptes qui le dit, de l'ordre de 7% moins cher en moyenne. Quand on pense aux services publics, on pense à l'enseignement. Mais on pense aussi à l'enseignement public, mais on pense aussi à l'enseignement privé sous contrat, qui réalise aussi une mission de service public. Et d'ailleurs, les professeurs des établissements privés sous contrat sont payés par l'État.
Vous avez une drôle de façon de présenter les choses, parce que, encore une fois, vous utilisez quelques données que l'on peut partager avec vous. Par exemple, le fait qu'il faut une plus grande efficacité, un plus grand souci, j'allais dire, des deniers publics qui doivent inciter à une meilleure organisation. Mais immédiatement, vous glissez de ça à une espèce de brouillage des catégories. Mesure où vous mettez sur le même plan des entités qui n'ont absolument pas les mêmes contraintes. L'école privée n'a absolument pas les mêmes contraintes que l'école publique, de même que les cliniques n'ont pas les mêmes contraintes, ce qui explique aussi la différence de coût.
Et surtout,
l'objectif n'est pas le même, le rôle n'est pas le même, et vous oubliez aussi dans vos comparaisons, tout simplement, des spécificités historiques et géographiques qui font que, prenons l'exemple de la SNCF ne peut pas avoir exactement le même fonctionnement que la Deutsche Bahn ou que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une géographie française qui n'est pas la même que la géographie allemande, ne serait-ce que dans la question des territoires ruraux, de la concentration dans des métropoles, tout simplement
moi, alors, la géographie, si vous savez, des choses qui s'appellent des montagnes et qui font
sujet,
que c'est plus long.
C'est un sujet intéressant. Il y a eu un très bon rapport Spinetta sur le sujet, mais il y avait eu énormément de rapports précédemment, avant, qui pointaient déjà beaucoup de problèmes. La SNCF, elle est présente dans 123 pays dans le monde. Elle fait bientôt 25% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Les objectifs de l'entreprise, et c'est bien normal, et on ne va pas dire qu'on ne serait pas fier en tant que Français d'avoir une entreprise française qui réalise du chiffre à l'international, bientôt ce sera dans les années 2020, 2025, 50%. À l'étranger, elle arrive à être compétitive. Comment elle le fait ? Bah, tout simplement parce que dans les 260 000 personnes qui travaillent dans l'entreprise SNCF, il y a la moitié qui sont des contractuels.
Agnès Verdier-Molinet, en France, elle n'est pas faite pour être compétitive.
Non, ça, c'est, en France, l'objectif de la SNCF, c'est quand même la cohésion du territoire national. Or, quand la SNCF se comporte comme une entreprise à l'étranger, son but, c'est d'être rentable. Le but d'un service public ne peut pas être rentable.
Bah
c'est d'être efficace dans la manière de desservir et de réorganiser.
Le but n'est pas d'être en déséquilibre structurel, de créer du déficit, de créer
le
de la dette qui sera à la charge des Français.
Ce n'est pas un but, l'objectif n'est pas d'être à l'équilibre non plus.
Oui, mais voyez, correctement gérer les services publics.
Bien sûr.
C'est aussi permettre aux Français de payer moins d'impôts. Je vous donne deux.
Mais ne pas appliquer la logique du privé sur le public, c'est aussi la définition même du service public.
Le régime de retraite des cheminots aujourd'hui. Alors vous allez me dire, il n'est pas dans la réforme. Mais tout le gouvernement n'a pas encore annoncé toutes les réformes.
Précaution,
qui seront nécessaires.
Il n'y figure pas.
Et il sera nécessaire de faire converger les modes de calcul des retraites. Parce que c'est un engagement de campagne du président de la République. Je pense que les Français l'ont très bien entendu pendant la campagne. Et parce qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un qui a eu la même carrière, quelqu'un qui a travaillé dans le privé ou quelqu'un qui a travaillé dans le public, qui a eu exactement la même carrière, la même rémunération sur l'ensemble de sa carrière, qui finit au même niveau de salaire, se retrouve avec des écarts de salaire, de pension qui sont gigantesques.
On l'a
fait pour un cheminot.
On a appliqué
à la Fondation IFRAP. Le mode de calcul du régime général a une carrière de cheminot. Et on a de l'ordre de 163 euros d'écart par mois, prime comprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 3 milliards que les Français payent tous les ans pour équilibrer le régime de pension des cheminots, eh bien, on pourrait en économiser une grande partie si on alignait le mode de calcul des pensions du régime des cheminots sur celui du régime général.
Enfin, ce n'est pas 3 milliards d'euros, parce que là, vous faites une équivalence entre
le régime spécial des cheminots. Mais une partie pourrait être économisée. Non, le déficit de la SNCF, c'est 3 milliards. Mais tous les ans, l'État français, donc nos impôts, verse 3 milliards d'euros pour équilibrer le régime de pension.
Vous voyez bien
que là, il y a un sujet de glisser
de la question du service public à celle du statut des cheminots, ce qui n'est pas exactement la même chose. Nous étions en train de parler.
C'est pas dans le sujet de la réforme de la SNCF, peut-être.
Nous étions en train de parler avec Raphaël de la question du rôle d'un service public. Qu'il faille revoir le statut des cheminots, réfléchir à la question de l'équité entre les citoyens en fonction de la pénibilité du travail, oui. Pour autant, ça n'implique pas qu'il faille libéraliser un service public. Parce qu'un service public nécessite, Agnès Verdier-Molinier, tout simplement, de concevoir globalement les dépenses de l'État. Et donc, il faut accepter dans certains domaines d'être parfois déficitaire parce que c'est nécessaire pour l'équité entre les territoires et entre les citoyens.
On est les champions d'Europe de la dépense publique. On est plus cher maintenant que les Finlandais. On est à 56,5 points de PIB consacrés à la dépense publique. Est-ce qu'à un moment, on va peut-être se dire pourquoi est-ce qu'on a 10 points d'écart avec les pays comparables alors qu'on n'a pas des services publics vraiment formidablement meilleurs ? Donc à un moment, il faut peut-être aussi voir les choses en face et se dire que quand l'ouverture à la concurrence va arriver en 2019 sur le transport voyageurs et va arriver ensuite sur les grands lignes, quand cette concurrence va arriver, est-ce que c'est logique qu'on garde la SNCF dans une situation finalement où elle va perdre des parts de marché ou finalement ça va jouer contre les cheminots eux-mêmes? Je crois pas. Je crois que être intelligent, c'est prévoir aussi la suite et prévoir d'adapter notre
entreprise. Le problème, c'est pas de dire qu'il ne faut rien changer dans les services publics. Évidemment, il faut prendre comme exemple certains pays qui ont des services publics peut-être plus efficaces que les nôtres. Mais le problème, c'est la philosophie du changement. Vous expliquez qu'une entreprise publique a pour vocation de ne pas être en déséquilibre, qu'une entreprise publique a pour vocation d'être compétitive, qu'une entreprise publique donc a pour vocation d'adopter le principe même du secteur privé. Que c'est, le but est finalement le même et les modes de gestion sont les mêmes. Mais l'objectif d'un service public, encore une fois, c'est ça le problème de la philosophie libérale aujourd'hui, c'est de ne pas comprendre ce que c'est qu'un service public. Un service public, c'est un service rendu au public. On peut en critiquer l'inefficacité, mais on ne peut pas en critiquer le principe. Alors, vous en critiquez
vous
le principe.
Vous changez un petit Agnès peu...
Agnès Vadimovic. Non, c'est exactement ce que vous avez dit quand vous avez dit la vocation n'est pas d'être en déséquilibre.
Ce que je dis sur les services publics en général et sur les dépenses publiques aussi, c'est qu'on doit dépenser chaque euro d'argent public comme si c'était son propre euro et de la meilleure manière qu'il soit. Oui. C'est-à-dire que pourquoi se dire qu'on doit dépenser de manière plus lâche
mais ou moins seule, l'école dit ça, privée moins évaluée. Avec l'école publique, la clinique avec l'hôpital, mais c'est pas la même logique.
À un moment, par exemple, on prend Bertrand Delanoë, par exemple, on ne peut pas le taxer
de
libéralisme. Quand il crée des crèches à Paris, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des crèches publiques, mais il les met sous délégation de services publics à une chaîne de crèches privées. Pourquoi? Parce qu'il veut des crèches publiques, parce que beaucoup de papas et de jeunes mamans veulent aussi des crèches, parce qu'ils veulent aussi des horaires étendus, avec des horaires du matin qui commencent tôt et des horaires du soir qui finissent le plus tard possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des modes de travail qui sont différents. Il y en a qui travaillent plus tôt, plus tard. Bon. Mais au lieu de créer des crèches publiques avec des agents statutaires, dont il sait qu'il aura pour lesquels il aura des problèmes d'absentéisme, et ces problèmes sont avérés dans les crèches publiques de Paris, eh bien, il va choisir cette délégation de services publics. Pourquoi? Parce que grâce à ça, il aura plus d'heures de garde, il aura... une meilleure qualité de service et les parents seront contents.
Pour vous comprendre, il y a des missions de service public qui doivent pouvoir être assurées par des entreprises privées sous délégation de services publics.
Mais bien sûr, mais
c'est juste pour être le plus clair possible.
C'est tout à fait logique.
Mais donc vous êtes par exemple pour faire la même chose qu'en Angleterre avec la SNCF.
Mais il est tout à fait logique à un moment aussi de se dire que peut-être que l'État qui n'a pas été le meilleur gestionnaire
pour
de
les
la SNCF.
Aussi,
si, regardons ce qui s'est passé. Précédemment, au moment de la loi El Khomri. Les cheminots n'étaient pas concernés par la réforme du droit du travail. Ils ont quand même fait grève. Normalement, des grèves de solidarité, c'est pas légal. Hein. Vous pouvez pas faire grève quand vous n'êtes pas concerné par un projet de loi. Ça s'appelle des grèves politiques. Bon. Aujourd'hui, la RATP veut faire aussi des grèves de solidarité par rapport à la SNCF. Là aussi, c'est à la limite de l'illégalité. À un moment...
Juste pour qu'on comprenne bien l'argument d'Agnès Vardy-Molineux.
Non, mais quand on suit la jurisprudence française, normalement, on ne doit pas pouvoir faire grève pour quelque chose qui
ne concerne pas.
Vous savez, Agnès Verdier-Molinier, que, encore une fois, nous ne sommes pas là pour défendre l'immobilisme et le fait de ne rien changer. Quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut les améliorer. Mais en effet, il y a un problème de logique globale. Et surtout, ce qui est totalement absent de votre raisonnement, c'est un petit truc qui s'appelle la démocratie.
Et sur cette question
de
justement,
savoir
la démocratie, c'est justement
les services
que les citoyens puissent avoir accès. Ces informations sur leurs services publics.
La libéralisation des services publics a été rendue. La libéralisation des services publics a été rendue obligatoire par les différents traités européens qui ont mis en place cette progression vers la libéralisation, sans que jamais les citoyens ne soient interrogés. Quand ils l'ont été en 2005, ils ont dit non. Et pourtant, on a continué et on va aller vers une libéralisation de la SNCF dont les citoyens ne veulent pas. Ils veulent qu'elle soit plus efficace. Ils veulent de l'égalité entre les cheminots et les autres.
D'avoir une activité dans les autres pays du monde, c'est pareil.
Ils ne sont d'accord.
On ne va pas se recroqueviller sur la France en disant mais maintenant, plus aucune entreprise étrangère a le droit de venir intervenir en France.
On a parlé de la SNCF, mais un autre service public en l'occurrence dont on parlait avec la ministre de la Santé, à savoir l'hôpital public, la ministre elle-même disait qu'il y avait un problème aujourd'hui parce qu'on avait appliqué une vision comptable à l'hôpital dans les années 2000 et qu'aujourd'hui on se retrouvait dans une situation de pénurie, de difficulté de gestion. Donc la réduction des deniers publics, enfin comment dire, la gabegie publique comme vous la qualifiez régulièrement, c'est pas toujours une solution.
Le sujet c'est aussi de repenser totalement l'organisation de l'hôpital. Ce que je vous expliquais tout à l'heure pour l'hôpital de Stockholm, qui est géré par une chaîne de cliniques privées, et ça pourrait être tout à fait appliqué en France aussi.
Ce que disait Agnès Buzyn tout à l'heure et qui est intéressant, c'est en effet que pendant des années, on s'est imaginé qu'il fallait réduire le nombre de médecins parce que ça allait mécaniquement faire baisser les dépenses de santé. Et que ce soit Alain Juppé ou Martine Aubry, ils ont mis en place cette politique qui aboutit aujourd'hui à une pénurie de médecins absolument aberrante.
Il y a quelque chose que vous oubliez dans la question de l'hôpital public. On dit qu'on on paye avec la tarification l'activité, ce qu'on appelle dans le jargon la T2A. Elle a été mise en place au début des années 2000, d'accord, par Jean-François Mattei. Pourquoi ? Pour faire converger justement les tarifs entre les hôpitaux. Parce que les hôpitaux, préalablement, ils étaient au budget global. C'était pas mieux. Parce qu'il y avait des hôpitaux qui avaient une activité très très importante, avec beaucoup de personnes qui étaient soignées et qui se retrouvaient dans des situations financières très difficiles, et d'autres qui étaient dans une activité beaucoup plus faible, qui finalement soignaient moins de personnes et qui ne se retrouvaient pas avec les mêmes problèmes.
Mais c'est vrai que le budget global fonctionnait pas.
Le budget global ne fonctionnait pas. La tarification à l'activité, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas inciter à l'ambulatoire aujourd'hui. C'est finalement... mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais quand vous parlez des médecins, ce qu'on oublie en France, c'est que les médecins hospitaliers, ils sont payés de la même manière qu'ils opèrent énormément ou qu'ils opèrent très peu. Et ça, c'est un sujet. Parce que ailleurs, comment paie-t-on finalement les médecins ? Beaucoup plus en fonction de leur activité. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a gardé à l'hôpital public en France ? Mais la consultation privée à l'hôpital, l'activité privée à l'hôpital qui existe toujours. Pourquoi ? Pour garder les meilleurs médecins. Et ça, tous les Français aujourd'hui le savent. Donc, pourquoi est-ce qu'on a gardé cette activité privée ? Parce qu'on sait très bien que les meilleurs, sinon, ils vont partir de l'hôpital public. À un moment, si on veut que les agents, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient aides-soignants...
La démocratie,
si on veut qu'ils soient valorisés dans leur travail, si on veut qu'ils soient motivés, il faut aussi qu'ils soient rémunérés en fonction de leur mérite, de leur présence, donc, etc.
Il nous reste peu de temps.
Mais le problème de votre discours, c'est que vous n'arrêtez pas de dire « les autres l'ont fait, regardez en dehors de nos frontières ». Moi, je regarde en dehors de mes frontières. Et vous savez, il y a un pays que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'Angleterre. En Angleterre, ils ont appliqué cette logique. Ils ont privatisé, ils ont détruit les services publics, et on se retrouve avec une catastrophe sur les rails, et on se retrouve avec des prisons privées qui ont comme but, parce que c'est la logique, qui ont comme but finalement la rentabilité. Et donc on se retrouve dans une situation où le sens même du public disparaît. Il y a des missions de service public qui doivent échapper à la logique de la rentabilité.
Alors vous voyez, sur le Margaret Thatcher, je ne connais pas la société, je ne connais que des individus.
Sur les sujets des prisons, le sujet des prisons. Nous, les Français, qui sommes si fiers de nos services publics.
Mais non, nos prisons fonctionnent mal.
Je pense qu'on devrait encourager tout le monde à aller dans les prisons françaises et à voir la situation.
Mais bien sûr, c'est une
françaises.
Catastrophe.
On a 117% de taux d'occupation. On est dans une situation où finalement, on n'incarcère pas et on se pose la question de comment pas incarcérer, avec parfois des problèmes de récidive dont on a parlé dernièrement.
Il y a de très nombreux dossiers, c'est vrai, qu'on pourrait aborder.
Et c'est quand même un sujet aussi de sécurité nationale.
Il y a plus de limites.
16 000 places en prison
bien
à construire
sûr,
dans les prochaines années. Donc arrêtons de dire qu'au Royaume-Uni c'est horrible alors que chez nous ce serait formidable.
Personne n'a dit que c'est formidable.
Encore une fois, cette question par exemple du pénitentiaire, c'est le pénitentiaire qui a pâti de l'augmentation des dépenses locales et des dépenses sociales, et pendant ce temps-là, on n'a pas investi dans le pénitentiaire. Donc je pense que regarder chaque politique publique et l'évaluer correctement.
On va devoir en rester là, on va devoir rendre l'antenne. Je suis vraiment désolé. Intéressant, c'est justement
la mobilisation des agents n'a pas été aussi importante que cela, autour de 12, 8 ou 10%, 10% dans la fonction publique hospitalière. Je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui aussi attendent la réforme des services publics et qui ne sont pas forcément dans le blocage du service.
En un mot, le macronisme est-il un libéralisme ? Oui ou non ?
Mais non, c'est la réforme, alors, il faut faire la réforme. Le sujet...
Mais le sujet,
c'est de rendre performant notre système.
Merci Agnès Verdier-Molinier d'avoir participé au débat. C'est la fin de l'émission et j'espère qu'on aura l'occasion de reprendre la question. Merci à Ophélie Vivier, à la réalisation, Claire Destacan, à la technique, Alice Berger, Nicolas Slimani. À suivre Zoé Varier et sa journée particulière. Vous avez entendu les bips. Merci d'écouter. Écoutez France Inter, il est 14h.